Bonjour, aujourd'hui le dernier chef des Apaches, Geronimo. Autrefois, j'allais comme le vent. Aujourd'hui, je me rends à toi et tout est fini. Geronimo au général Crook en 1886. Ans d'histoire. En février 1909, quelque part dans l'Oklahoma, un vieil Indien de 85 ans rentrait chez lui après avoir acheté une dernière bouteille de whisky. Arrivé près de Fort Sill, il perdit l'équilibre et tomba de son cheval la tête la première dans une flaque d'eau glacée. Incapable de se relever, il passait la nuit sur le sol gelé avant qu'on le retrouve le lendemain matin. Transporté chez lui, il allait mourir quelques jours plus tard, emporté par une pneumonie. C'est ainsi que le 17 février 1909 se terminait la vie de celui qui, à la tête des Apaches, avait résisté pendant plus de 30 ans à l'armée américaine, le chef des derniers Indiens à avoir refusé d'être enfermé dans les réserves où voulait les parquer 37 ans plus tôt le gouvernement des États-Unis.
Les Apaches Chiricahua du sud-ouest américain étaient la dernière grande tribu à défier le gouvernement des États-Unis et ses efforts pour imposer le système des réserves. L'armée, sous le commandement du brigadier général George Crook, avait reçu pour mission de briser cette résistance.
Dis aux Vietnam et aux autres qu'on ne leur fera aucun mal. On est venu vous conduire dans une réserve d'État. À votre arrivée dans la réserve...
Seul un guerrier Chiricahua et sa bande de renégats résistèrent. Il s'appelait Goyacla. Mais des années auparavant, les Mexicains lui avaient donné un autre nom. Geronimo.
Olivier Delaveau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste des Indiens d'Amérique du Nord et puis auteur aussi d'une biographie de Geronimo qui vient d'être publiée aux éditions Folio. Geronimo, dites-vous, qui ne fut jamais un chef, mais qui devint plus célèbre que tous les grands chefs réunis. Pourquoi hein? Parce qu'il y avait quand même Sitting Bull, il y avait Crazy Horse, il y avait Cochise, qui était un chef Apache. Mais Geronimo n'était pas un chef, en fait.
Ça n'était pas un chef, c'était un chaman de guerre, craint et redouté, et en même temps respecté. Simplement, il a exercé sur les siens une fascination par sa manière de vivre et de se battre jusqu'au boutiste, en fonction de données mythologiques, en fonction d'une guerre mystique qui en fait, pour beaucoup d'historiens et pour moi-même, un guerrier, entre guillemets, intégriste. Et c'est un peu ce que disent des préfaciers américains dans ses mémoires. Cet intégrisme poussé jusqu'au bout, c'est le guerrier du désespoir. Et ce simple fait d'être guerrier inspiré fait que sa réputation dépassa toute celle des grands chefs qui étaient des grands politiques ou des chefs sociaux, des chefs de village, avec une légitimité sociale et politique, tandis que Geronimo n'avait pas de légitimité, disons, sociale et politique au sein de la tribu. C'était un guerrier qui avait ses partisans.
Alors, né à une date indéterminée, à un endroit d'ailleurs indéterminé aussi, c'est quand même une population nomade, hein, les Apaches. Enfin, il est né autour de 1824, dites-vous, 25, dans une des très nombreuses tribus Apaches. On ne peut pas comprendre en fait son histoire non plus, ni celle des Apaches, sans savoir qu'ils étaient très profondément divisés, Olivier Delaveau.
Oui, pour bien resituer Geronimo dans son environnement géographique et familial, il faut comprendre que bon, il faisait partie de la tribu Chiricahua, qui est une tribu Apache parmi tant d'autres. Et cette tribu Chiricahua était divisée en quatre bandes. Et Geronimo faisait partie de la bande des Bidoncoé, qui dépendait des Cheyennes.
Alors il y avait aussi, à part les Chiricahua, il y avait les Lipans, les Mescaleros. Je crois que parce qu'ils aimaient bien le mescal, ils vivaient d'ailleurs au Mexique, non ?
Oui, d'ailleurs, les premiers Espagnols, enfin, après 1540, leur premier nom c'était les Apaches Faraones. Et il y a eu des tas de subdivisions Mescaleros, et c'est des gens qui étaient fixés au Nouveau-Mexique, qui avaient la même volonté, un petit peu de résistance des Chiricahuas. Et en fait, les Chiricahuas considéraient les Mescaleros comme leurs grands voisins de l'Est et finalement le flanc Est de leur résistance.
Alors, il y en avait beaucoup d'autres. En fait, les modes de vie étaient un peu différents. Certains étaient des sédentaires, d'autres des nomades. Il y en a même eu qui se sont battus plus tard du côté dans l'armée américaine. Enfin, oui. Au côté des Américains, en tout cas.
Si vous voulez, il y avait ce qu'on appelle les Apaches du Nord, qui était le nord de l'Arizona, où se tient aujourd'hui Fort Apache, où il y avait les Western Apaches, comme on dit, les White Mountains, et plus au sud, les Apaches des Dragoons, du sud de l'Arizona, et les Apaches du sud, les Méridionaux, qui étaient dans les Sierras mexicaines. Et les modes de vie dans les Sierras mexicaines et dans un petit peu les prairies et les montagnes qui ressemblent un peu au Jura de Fort Apache, ce sont des modes de vie assez différents.
Alors, vous le rappelez, il se fait se fait assez peu remarquer, Geronimo. D'ailleurs, il ne s'appelle pas comme ça. Son nom, le nom qu'on lui a donné, c'était Goyatlé, celui qui baille. Hein, ce qui veut dire qu'il était peut-être un peu indolent, non ?
Oui, alors se méfier de l'okidor, bien évidemment. Celui qui baille, c'était... Il y avait une espèce de en même temps, ce bâillement chez les Indiens, en l'occurrence chez les Apaches, ça peut être aussi une force de méditation par le bâillement et donc la force que ça donne dans l'inspiration donne à méditer beaucoup de choses. Il écoutait beaucoup les anciens, prenait beaucoup de leçons et cette écoute l'a formé vraiment... pour être ce qu'il est devenu. Et ce n'est plus tard qu'un incident très grave qui a donné un autre nom.
Alors justement, cet incident grave, c'est tout simplement, si je puis dire, sa famille, sa femme, ses enfants qui sont massacrés par les Mexicains.
Oui, c'est pire qu'un incident même. En fait, en mars 1851, comme d'habitude, les Apaches vont dans la province de Chihuahua, dans la petite ville de Janos, pour faire du troc. Ils s'entendaient bien avec les gens du Chihuahua et les Apaches, comme beaucoup d'autres Indiens, sont les gens qui font du troc. Et en se rendant à Janos, ils ont été piégés pas loin de la petite ville. Des soldats mexicains qui venaient de l'autre état mexicain, c'est-à-dire le Sonora, sont venus massacrer des familles entières, dont la mère de Geronimo et ses trois enfants.
D'où la vengeance qu'il veut en tirer. Et un an plus tard, il attaque lui-même un village mexicain, oui. Arispe. Oui. Et c'est là que Goyatlé est devenu ou serait devenu Geronimo, Olivier Delaveau.
Voilà, il y a une douleur intense égard à la perte de cette famille dans les conditions cruelles dans lesquelles ça s'est passé. La vengeance se fomente. On lui permet de prendre la direction... des opérations du fait que c'est lui qui a subi le plus de pertes. Et en prenant la direction de cette opération, en tout cas le village d'Arispe, dit-on en fin 1851, il se trouve qu'il était déchaîné et à un moment, le prêtre de ce sont des villages très chrétiens, très catholiques, c'est les franciscains surtout, le prêtre du village à un moment crie Geronimo, on ne sait pas pourquoi, Agucado, attention Geronimo. Et ce nom a attiré l'attention des autres Apaches et depuis ce jour-là, les Apaches l'ont appelé comme ça. Et en fait, beaucoup d'historiens disent que c'était le jour de la Saint-Jérôme.
Et c'est pour ça que Geronimo s'est appelé, ou Goyatlé est devenu Geronimo.
Est devenu Geronimo, voilà.
Et puis alors commence pour lui une guerre de 30 ans contre les Mexicains et les Américains, les yeux clairs, comme les appelle Geronimo, qui va se battre pendant longtemps, d'abord sous l'autorité de Cochise, d'autres de grands chefs indiens, Apache, Cochise, Mangas, Victorio, et contre le général Crook.
J'ai connu Cochise, c'était un roi. Un homme sage, vénéré par son peuple. J'ai connu Victorio. C'était un chef orgueilleux. Et je connais Geronimo. Il ne veut être ni sage, ni roi, ni même chef. Il veut seulement se battre.
Tonina. Taha tuku karana
kustesene. Avant l'arrivée des yeux clairs, la vie était belle. L'œil clair ne comprend pas la tradition apache.
Da ona.
Le guérisseur de Sibécus s'appelle le rêveur. Il dit que les chefs morts se relèveront, que les Apaches sont les vrais détenteurs de cette terre.
Et Et c'était la danse du soleil, une danse traditionnelle des Apaches qui vivaient sur un immense territoire, sans avoir vu d'ailleurs pendant des siècles des yeux clairs, comme ils disent, qui arrivent justement à peu près au milieu du 19e, Olivier Delaveau. Et c'est ce qui va passer, c'est ce qui va poser évidemment, ce qui va provoquer les guerres indiennes.
En fait, il y avait des yeux clairs, donc des Américains, hein, des Anglos, des Américains, dès le début du 19e siècle. Simplement, la démographie américaine a vraiment augmenté dès les années 1840, alors que la totalité des tribus Chiricahua étaient en guerre permanente avec le Mexique. Donc, au début, les rapports avec les Américains n'ont pas été spécialement mauvais. Et d'ailleurs, même des grands chefs avisés comme Mangas Coloradas leur avait demandé un peu assistance pour se battre contre les Mexicains. Il faut savoir qu'à un moment donné, les États-Unis étaient en guerre contre le Mexique. Donc, les Apaches ont essayé d'avoir une alliance, en fait, avec les troupes américaines contre le Mexique. Et les militaires américains ont poliment refusé cette invitation à un ralliement.
Alors, c'est au début des années 1860 que commence véritablement la guerre, entre les Apaches et les Mexicains, mais surtout contre les nouveaux États-Unis, avec des chefs derrière lesquels s'est trouvé Geronimo. Hein, c'était d'abord essentiellement Cochise.
Absolument. Déjà, au départ, il était derrière Mangas Coloradas, qui était plus proche de sa famille. Mais lorsque la guerre de Cochise commence, suite à une trahison qu'on appelle l'incident Bascom, c'est vraiment Cochise qui dirige, qui a haut la main sur les quatre bandes Chiricahua. Et Geronimo est bien sûr sous les ordres des troupes de guerre de Cochise qui sont divisées dans toute sur tout le territoire de l'Arizona. Et ça, c'est une guerre qui a duré 10 ans et elle s'est arrêtée par la seule volonté lucide de Cochise qui voyait bien ses rangs s'éclaircir et la démographie américaine augmenter. Comme c'était un chef avisé et visionnaire, il a arrêté à temps. Parce qu'il n'avait pas le choix.
Une guerre très violente, vous le rappelez, des deux côtés. Oui. Et notamment, il y a par exemple Mangas Coloradas qui est torturé, décapité en 1863. On va même exhiber sa tête dans l'Est pour bien montrer qu'il était mort. Mmh. En 1871, oui. Il y a un massacre d'Apache également à Camp Grant. Et puis donc, Cochise accepte la paix, mais pas en revanche, mais pas Geronimo. Cochise accepte la paix, il mourra deux ans plus tard, en 1874, et on envoie les Apaches dans des réserves où le général Crook, appelé Nathan Lupan, avait envoyé Geronimo, a réussi à envoyer Geronimo en 1877.
Mon âme se réjouit de te voir, Geronimo.
On pourra avoir nos fusils pour la chasse.
Oui, mais seulement dans la réserve. Les Apaches vivront sous la protection des États-Unis et de leur armée. J'espère que les guerres sont finies, mon ami. Nathan Lupan veut que tous les Chiricahua deviennent fermiers. C'est leur seule chance. Il faut qu'ils changent. Les temps ont changé.
Nathan Lupan dit que vous ne pouvez en aucun cas quitter cette réserve d'État, même pour quelques heures sans notre permission. Vous ne devez boire en aucun cas du whisky ou du tiswin. Et toute violation de ce règlement vous vaudra d'être enfermé et traité comme prisonnier militaire.
Alors, Nathan Lupan, c'est le nom que les Indiens donnaient, que les Apaches donnaient à leur grand adversaire, le général Crook. Ça voulait dire quoi, Olivier Delaveau ?
Le loup gris.
Ouais. Alors, Crook est un des rares généraux d'ailleurs qui admirait, en tout cas qui respectait les Indiens, semble-t-il.
C'est-à-dire qu'il a été rappelé en désespoir de cause parce que les autres généraux ne venaient pas à bout déjà de Cochise. Il y a eu le traité Cochise-Howard en 72 qui a fait grincer des dents Crook, qui était plutôt un va-t-en-guerre, mais un va-t-en-guerre, on va dire, respectueux et respectable. C'était un homme qui passait son temps dans la nature à chasser, même quand il était en campagne, quand il était en guerre. Il ne portait pas d'uniforme, il avait une vareuse. Finalement, ça aurait été plus un bon connaisseur de sciences naturelles de l'époque. Il admirait vraiment le pays où il était en guerre. Et les Apaches inspiraient beaucoup de respect. Mais également, il faut savoir que Crook, avant, avait lutté contre les Sioux Crazy Horse. Donc, il était un petit peu habitué à des hommes qui défendaient certaines formes de célérité et de noblesse leur territoire. Donc, il était vraiment... respecté par les Apaches. Et Nana disait, le grand chef Nana, un chef Mambrinos, disait avec Crook, on sait à qui on a affaire, il vient au devant de ses hommes se battre contre nous. Et il y avait vraiment un respect mutuel. Et d'ailleurs, avant sa mort en 90, il est venu visiter les Apaches en déportation pour les aider et pour leur exprimer son amitié en même temps.
Quelle était l'attitude des colons qui venaient justement s'installer, et contre lesquels d'ailleurs les Apaches s'étaient insurgés, Olivier Delaveau?
L'attitude de colons...
Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'abord, tout simplement, dans le territoire
Apache? Disons, c'était la route, la piste de Santa Fe, c'était la route de Californie. Les gens passaient donc par le sud-ouest, c'était la route de Californie. Donc, passage obligé, Nouveau-Mexique, Arizona. Donc, territoire, qui dit ça, dit territoire Apache-Chiricahua. Qui dit ça, dit danger, dit guerre, dit conflit. Simplement, bon, il y avait des colons courageux qui étaient installés comme fermiers, et souvent les Apaches ne les dérangeaient pas trop. Les pires colons, enfin, ce n'était pas des colons, c'était les mineurs. Et les mineurs, souvent, ont été la cause, au départ d'ailleurs, de la capture et de l'assassinat de Mangas Coloradas. Les mineurs ont déclenché des guerres à Santa Rita del Cobre. Ils savaient vraiment faire les histoires et maltraiter les Apaches, ce qui n'était pas le cas de tous les autres, qui étaient plutôt des fermiers qui avaient une seule envie, c'est de s'installer et de vivre tranquillement.
Les Apaches n'étaient pas des tendres non plus.
Ça n'était pas des tendres, mais il faut bien comprendre, leur ennemi séculaire à l'époque de la Nouvelle-Espagne, depuis 1540, c'était le Mexicain. Et ils pensaient vraiment que lorsque l'Américain est venu, d'ailleurs il y a eu de très bons rapports avec la commission Bartlett qui traçait la frontière entre les États-Unis et le Mexique, il y a eu de beaux rapports avec les premiers officiers, ils croyaient vraiment bien s'entendre avec les Américains. Ils se sentaient beaucoup plus proches d'eux que des Mexicains. Simplement, il y a eu le traité de 1848 de Guadalupe Hidalgo qui changeait la frontière États-Unis-Mexique. Et certains Apaches, enfin pratiquement tous les Apaches, pardon, qui étaient au Mexique au début, se sont retrouvés par le fait d'un traité des citoyens américains, ce qui changeait complètement la donne. Et voilà, c'était vraiment là, tout se passait depuis Washington, finalement. Les traités, les changements de frontières, peu importait qu'il y ait des Indiens soient concernés ou pas, ça se passait par-dessus leur tête.
Comme le traité donc signe Cochise en 1872, oui. Il meurt 2 ans plus tard, qui prévoit donc l'envoi dans des réserves de ces Apaches, oui.
Oui, oui. Vous êtes... Allez-y. Non, c'est qu'en fait, le traité de 72, c'est le choix de Cochise qui choisit lui-même l'endroit où seront les Chiricahua. Et en fait, Cochise a été le seul Indien à faire plier un général qui représente le président des États-Unis.
Il s'appelle Howard, le général.
Voilà, le général Otis Howard. Mmh. Et en fait, la réserve existera pendant 2 ans et demi, et elle sera détruite parce qu'en fait, elle donnait l'occasion aux troupes de Geronimo et de Joux, qui sont les Apaches méridionaux et les Nennis, de traverser la réserve et d'aller guerroyer avec le Mexique en dessous. Or, dans le traité, il était sous-entendu quand même que les Apaches devaient arrêter d'être en guerre avec le Mexique.
Alors, cette réserve ou ces réserves dans lesquelles on les envoie, Geronimo refuse d'y aller, puis finalement va se laisser convaincre ou va y être enfermé. L'une d'entre elles, qui s'appelait San Carlos, était tellement difficile d'ailleurs qu'on l'appelait les 40 arpents de l'enfer. Hein. Oui. En fait, ce qu'on voulait faire de ces Apaches, ce qu'ils n'étaient pas en tout cas, c'est des agriculteurs.
Alors, oui, et là, on se fout du monde, là, parce que on veut faire de ces gens des agriculteurs sédentaires, leur faire miroiter le bien-être d'une vie sédentaire, de produits de son travail de la terre. Mais quand on connaît San Carlos à l'époque et même encore un peu aujourd'hui, on s'aperçoit bien que être agriculteur à San Carlos relève de la pure fantaisie. Ce sont des marais, ce sont des moustiques, on meurt de la malaria, la terre est sèche, on ne peut rien cultiver du tout. Et en plus, les Apaches n'avaient pas attendu ces gens-là pour être agriculteurs. Ils avaient des petits champs de courges et de haricots dans les montagnes de la Sierra Madre. Donc vraiment, là, ils se demandaient vraiment de qui se moque-t-on.
Alors, Geronimo va s'enfuir 5 fois de ses réserves où on veut l'enfermer, va mener une guerre. Mais alors, c'est plus une guerre, c'est une guerre de guérilla. Il n'y a pas de grands engagements. D'ailleurs, il n'a presque plus personne autour de lui au fur et à mesure. Oui, il y a une vingtaine ou une trentaine.
Il y a une trentaine de guerriers. Il s'est rendu, ils étaient une petite trentaine, dont à peine 15 guerriers, contre 9000 hommes, américains et mexicains. Simplement, les rangs étaient éclaircis. Beaucoup de gens avaient choisi de rester sur la réserve à cause des femmes et des enfants. Beaucoup d'Apaches Chiricahua sont devenus éclaireurs pour se dire, moi, c'est plus possible, on n'arrive plus à suivre, je veux protéger la femme et les enfants. Donc, ce n'est pas forcément des traîtres, c'était des gens qui voulaient protéger leur famille. Et ce qui est épouvantable, c'est qu'à la fin des guerres, lorsqu'il y a eu après la reddition, tout le monde a été déporté, y compris les guides et les éclaireurs qui ont été alliés de l'armée américaine, qui étaient fidèles. Ils croyaient vraiment que l'armée et le gouvernement les protégeraient.
Oui, parce qu'il y avait effectivement, aux côtés de l'armée américaine, des supplétifs qui étaient des guides, appartenant à d'autres tribus, même des Chiricahua. Donc en fait, en réalité, il se bat même contre des Apaches, le pauvre Geronimo, si on peut dire.
Bah, il se bat contre ses anciens frères d'armes. Hein, on le voit même jusqu'au dernier jour à sa reddition avec le général Miles. Ce sont deux anciens compagnons d'armes qui viennent lui demander sa reddition. C'est pathétique, c'est shakespearien. Comment peut-on, quand on se met à la place de ces gens-là et qui voient des gens de leur propre rang, de leur propre famille, venir leur demander la reddition pour être déportés.
Vous avez évoqué le général Miles, Olivier Delaveaux, parce que tout simplement, Crook, considéré comme trop naïf, il a capturé Geronimo, puis il a laissé s'enfuir, etc. Crook, en 1886, est remplacé par ce général Miles. Alors avec lui, c'est plus du tout pareil, c'est plus des négociations, il n'y avait plus de respect pour les Indiens.
Oui, il était vaniteux et il voulait se faire un nom. En mars 86, à Los Ambudos, au canyon de Los Ambudos, Naish, le fils de Cochise, et Geronimo se mettent d'accord avec Crook. Ok, on se rend, c'est la reddition. Et dans la nuit, alors on ne sait pas comment ça s'est passé, il y a un type qui vend du whisky frelaté, qui fait boire les Indiens. Il leur raconte n'importe quoi. Vous allez être pendus, c'est des traîtres, il ne faut pas y aller. Et Geronimo et ses gens s'évadent. Et là, Crook, qui était parti sur Fort Bowie annoncer les bonnes nouvelles au président, aux autorités compétentes, ne sait pas que Geronimo s'est évadé. Et il va être déposé par Sheridan, le général Sheridan, et il va être remplacé par Miles.
Alors Miles, qui dispose de 5000 hommes contre la trentaine de guerriers qui restent autour de Geronimo, Geronimo qui est traqué, il est à ce moment-là au Mexique, et on finit par le retrouver. Il va se rendre le 4 septembre 1886 à un envoyé du général Miles, le capitaine Gatewood. C'était donc le 4 septembre 1886.
La vérité, c'est que le général Miles vous pourchassera pendant 50 ans. Regarde autour de toi. Tu verras que tu n'as plus qu'une poignée de guerriers.
J'ai la vie entière pour tuer tous les yeux clairs. Et je demeurerai Geronimo, un Apache.
Notre guerre est finie. Notre combat prend fin ici.
Je t'offre ma paix.
Par ordre du gouvernement et du président des États-Unis d'Amérique, tous les guides Chiricahua sont en état d'arrestation et seront transférés à la prison de Fort Marion, à Saint-Augustin, en Floride, avec les hors-la-loi Apache dirigés par Goyacla, alias Geronimo. Les guides Apache des tribus de White Mountain, Coyotero et Mescalero doivent retourner immédiatement dans leur réserve d'État. Leur mission pour l'armée des États-Unis est terminée. Nous les remercions de leur contribution.
Et c'était en septembre 1886, on le voit d'ailleurs, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, le général Miles n'a pas été plus tendre pour Geronimo qu'il ne l'a été pour ceux qui l'avaient aidé, pour les supplétifs Apaches qui s'étaient battus aux côtés de l'armée américaine.
Et oui, et cela peut s'expliquer en partie du fait qu'au départ, comme Crook avait été déposé et Miles voulait le remplacer, comme un patron qui remplace un autre patron, ils veulent toujours amener des méthodes différentes pour faire voir qu'eux, ils ont raison. Et l'erreur qu'a faite Miles en arrivant, c'est qu'il a supprimé tous les guides Apache parce qu'il n'avait pas confiance aux Apaches. Et puis, on peut dire aussi qu'il avait un fond méprisant pour ce qui n'était pas blanc.
Alors, pour ce qui concerne Geronimo, il est donc envoyé avec ceux qui étaient restés avec lui, est envoyé à Fort Marion, à des milliers de kilomètres de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, des territoires Apaches, à Fort Marion, en Floride. Et là, ça a été véritablement une hécatombe. En tout cas, les conditions étaient extrêmement difficiles moralement, parce qu'ils ne vont plus jamais revoir, au fond, leur pays, et physiquement, Olivier Delaveaux.
Déjà, la déportation par le train un wagon plombé a été épouvantable. Ils étaient entassés dans des conditions d'hygiène absolument désastreuses. Il y a eu des morts dans le train. Arrivé en Floride à Fort Marion, ça a été des années après de catastrophes. La tuberculose a tué beaucoup plus d'Apaches que les balles des fusils. La maladie est venue à bout de leur esprit de résistance et ils n'étaient qu'une poignée. Ensuite, lorsqu'ils ont été après installés en Alabama et après en Oklahoma, mais le mal était fait, il y a eu des centaines de morts. Et pour eux, ce qui était terrifiant aussi, c'est pas que simplement la mort physique ou le danger physique de la guerre ou de la déportation, c'était l'idée même d'être arraché à une terre. Donc, si vous voulez, pour eux, la Floride n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Dans leur entendement, ça ne peut pas exister. Et c'est un pays qui est complètement différent de l'Arizona. C'est les marécages, c'est l'humidité. Pour des organismes qui étaient habitués aux montagnes d'altitude du Mexique, ça n'est pas possible. C'est la mort certaine.
Alors, pour Geronimo, c'est un exil qui a encore duré 23 ans, parce qu'il est mort très âgé, à peu près à 85 ans, on le pense. Et puis, alors, ce qui est pathétique aussi, quand on vous lit Olivier Delaveau, c'est la façon dont il est exhibé littéralement comme une espèce d'animal de foire.
En fait, ça a commencé dès qu'il est arrivé à Fort Marion. Les gens s'agglutinaient autour des murailles, des forts, parce que les Apaches Chiricahua étaient célèbres dans l'Amérique entière, ce qui explique aussi la célébrité de Geronimo. C'est jusqu'au boutisme, il n'était pas chef, mais il était connu plus que tout le monde. Et ensuite, il a été invité, exhibé à la foire de Saint-Louis en 1904. Il a fait des mini-cirques indiens, comme Sitting Bull avait fait en beaucoup plus grand avec Buffalo Bill au Hallowell Show. Il y a eu des petits cirques Apache. Mais il y avait une petite chose en plus, c'est que Geronimo savait faire du commerce. Il décousait des boutons de sa vareuse, il les vendait, il fabriquait des arcs, il les revendait. Enfin, il a gagné beaucoup de sous et on a appris un peu après sa mort qu'il avait environ 10 000 dollars en banque. Bon, oui, c'était un malin. Il avait appris quand même beaucoup de choses du monde américain dans sa période de déportation. Il s'était fait des amis, il allait jouer aux cartes, il a dicté ses mémoires.
Il buvait beaucoup. Hein.
Mais il buvait beaucoup. Et bon, c'est vrai que là, le gros problème, ce qui a coûté beaucoup aux Indiens dans toute leur histoire, notamment aux Apaches, ce problème-là, leur organisme avait un gros problème avec l'alcool.
C'est de ça qu'il est mort. Il y a aussi un événement dont vous parlez, c'est le moment où, pour l'investiture du président américain Theodore Roosevelt, on demande à Geronimo de défiler pour se défiler à l'investiture. Ça fait penser un peu, vous savez, à ces triomphes des empereurs romains qui exhibaient leurs vaincus dans les rues. C'est terrible.
On en est là. En 1905, Geronimo défile à l'investiture de Roosevelt dans les rues de Washington.
Et est-ce que, alors, il est mort, il est resté, même enterré, on n'a pas enterré en territoire Apache, mais il reste combien d'Apaches? Parce que ses successeurs ont eu droit ensuite d'aller dans une réserve, Mescalero. Il en reste combien aujourd'hui et quel est leur sort?
En fait, on a accordé donc aux Chiricahua, on les a libérés fin 1913 et on a donné le choix. Ceux qui voulaient rester en Oklahoma sont restés, il en a resté une petite poignée, mais la majorité sont retournés dans le sud-ouest au Nouveau-Mexique. Mais j'ai bien dit, au Nouveau-Mexique, chez les Mescalero, toujours interdiction d'aller en Arizona.
Merci Olivier Delaveau. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'une biographie de Geronimo aux éditions Gallimard, folio biographie. À lire également Entre les mains du grand esprit, 20 000 ans d'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, de Jack Page aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges que vous dirigez. Vous avez pu entendre des extraits du film Geronimo de Walter Hill, disponible en DVD chez Columbia Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benoît Bassir et Henri Bérec, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.